Eh bien, je suis très heureux d'être à Lyon, dans cet institut Saint-Grégoire-le-Grand. Et je vous parlerai ce soir, comme l'abbé Troidec vient de vous le dire, de l'échéance 2000 dont on parle. L'échéance 2000 semble être comme un terme, au-delà duquel d'ailleurs on se demande ce qu'il pourra bien y avoir. Je voudrais surtout aborder cette échéance 2000 sous le point de vue, me semble-t-il, sous lequel se place Jean-Paul II lui-même. Il a abordé de façon explicite cette échéance dans un document paru en novembre 1994, qui s'appelait donc, en français, on l'avait appelé le Jubilé de l'an 2000, quelques journaux en avaient parlé à l'époque, ou bien à l'approche du troisième millénaire. Et cette préparation de 2000 qu'il avait explicitée, il l'a reprise dans une encyclique qui a été conséquente, elle date d'un an plus tard, 95, qui s'appelait donc « Qu'il soit un, utum sint » en latin. Et c'est un peu, surtout dans l'être apostolique, dans ces documents, on n'en a pas d'autres pour le moment, qu'il explicite ce qu'il entend faire ou ce qu'il veut voir réaliser en l'an 2000. Le plus important des deux, à cet égard, n'est pas tellement l'encyclique, mais plutôt la lettre apostolique. Donc l'autorité de ces documents est variable, puisqu'il y en a un, c'est une lettre apostolique, et l'autre, c'est une encyclique. Ni l'un ni l'autre de ces deux documents n'est infaillible, aucun n'a les conditions de l'infaillibilité. Et pour l'an 2000, celui qui est le plus explicite, c'est la lettre apostolique. L'encyclique va développer un des aspects abordés déjà dans la lettre apostolique. Alors il est important d'abord de préciser que ni l'un ni l'autre des deux documents ne sont infaillibles. Vous le savez, quoique Jean-Paul II soit pape, tout ce qu'il dit n'est pas nécessairement infaillible. Et ça a toujours été comme cela. Ce n'est pas une nouveauté, on n'a pas inventé cela pour arriver à vivre, au temps présent. Il faut, pour qu'un document soit infaillible, qu'il remplisse certaines conditions qui ont été définies par l'Église elle-même. Ces conditions, dans la mesure où elles ne sont pas présentes, car elles sont constatables par tous, ces conditions donc empêchent ou manifestent que le document n'est pas infaillible. Alors, en période ordinaire, quoiqu'un document ne soit pas infaillible, je dirais l'esprit du catholique, qui est un esprit justement de fidélité et donc d'obéissance au magistère, eh bien cet esprit faisait confiance sans plus aux documents qui émanaient de Rome. Aujourd'hui, malheureusement, et ça c'est l'expérience, nous a révélé qu'il était bon de lire avec attention ce qui était écrit. Et là encore, notre position, Fraternité Sapidis, est importante, car on pourrait nous objecter, bien, vous dites que normalement, tout catholique doit un assentiment aux documents du magistère, même s'ils ne sont pas infaillibles, mais finalement, vous vous érigez vous-même en docteur, parce que vous allez juger d'un document qui émane de Rome, même si, encore une fois, il n'est pas infaillible. Alors, nous répondons, n'est-ce pas, que nous appartenons à une société qui a été fondée par un évêque. Et c'est très important parce que les évêques font partie de l'Église enseignante de l'Église. Et nous sommes l'Église enseignée. Donc l'Église enseignée à laquelle nous appartenons, eh bien, s'appuie justement pour juger sur l'Église enseignante. Et je crois que c'est une des forces de la fraternité d'avoir eu à sa tête et comme fondateur un évêque qui a transmis lui-même cet enseignement. Il a dit le jour du sacre, j'ai transmis ce que j'ai reçu à d'autres évêques. Donc nous sommes appuyés, je dirais, sur l'Église enseignante, en portions réduites, il est vrai, pour, eh bien, non peut-être pas juger, mais examiner attentivement ce qui est écrit dans ces deux derniers documents. Alors venons-en au fait que nous réserve l'an 2000. Jean-Paul II, dans cette fameuse lettre, donc, qui a été publiée dans diverses éditions, j'ai celle du CERF, mais je citerai des numéros, donc ça n'a pas d'importance. Jean-Paul II a cette phrase importante, au numéro 23, le pontificat actuel depuis son premier document, donc il parle de lui-même, le premier document c'est Redemptor Hominis, c'est la première encyclique qu'il a écrite. Donc le pontificat actuel depuis son premier document parle du grand jubilé d'une manière explicite. Alors à l'époque, on n'avait pas fait tellement attention à ces mots de Redemptor Hominis, cette première encyclique. Et pourtant, il est vrai que dans la première page de la première encyclique, il est déjà fait allusion à l'an 2000, explicitement. Alors il reprend ici, il dit « Il invite à vivre la période d'attente, donc de l'an 2000, comme un nouvel avant. » Alors l'avant, vous savez, c'est la période liturgique pour nous. C'était la période historique qui prépare à la venue du Messie. Nous, nous fêtons la venue du Messie, mais déjà venu. Chaque année, l'Avent revient, mais nous le revoyons, je dirais, de façon liturgique, car nous allons fêter un événement qui a déjà eu lieu. Ici, il s'agit donc de reprendre ou d'attendre l'an 2000 comme un nouvel Avent. Bon. Ce qui est important ici, c'est ce qu'il ajoute. En effet, la préparation de l'an 2000 devient comme une de ses clés d'interprétation. Alors, clé d'interprétation du pontificat actuel. Donc, Jean-Paul II nous dit lui-même que pour comprendre son pontificat, il faut saisir cette préparation de l'an 2000. C'est la clé qui nous permet d'ouvrir le pontificat actuel. D'où l'importance de cette lettre apostolique. Alors, je vais essayer, eh bien, de vous donner la clé pour pouvoir ouvrir à votre tour cette préparation de l'an 2000. Cette lettre s'appuie alors sur un principe qu'elle va mettre en lumière. Ce principe, il émane des documents de Vatican II, donc le dernier concile, de la constitution Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps. Constitution à laquelle a beaucoup travaillé à l'époque, donc, eh bien, Monseigneur Wojtyla. Il avait donc beaucoup travaillé à cette constitution-là en particulier. Il la connaît donc très bien. Et sur 12 encycliques qu'il a écrites, 10 citent le même passage au début, toujours en introduction, le même passage de Gaudium et Spes, c'est le fameux numéro 22, qui va nous permettre de comprendre un peu ce qu'on peut attendre en l'an 2000. Voilà ce passage repris donc ici encore une fois. Comme l'affirme de façon suggestive le Concile Vatican II, le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la grandeur de sa vocation. Donc le Christ manifeste l'homme à lui-même. Ceci est très important, car voyez alors que, je dirais, le Christ vient comme un intermédiaire de l'homme au retour vers lui-même. Et il ajoute, reprenant toujours le concile, « Par son incarnation, le Fils de Dieu lui-même s'est en quelque sorte uni à tout homme. » C'est la phrase clé. C'est la clé de la clé. Donc, première chose, le Christ révèle l'homme à lui-même et lui découvre la grandeur de sa vocation. Deuxième chose, par l'incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni à tout homme. Voilà, si vous voulez, le principe donné, car c'est un rappel du Vatican II, donc nous sommes quelques 30 ans plus tard, principe sous lequel toute la lettre apostolique va se dérouler. Il va justement montrer que cet an 2000 qu'il veut préparer va permettre une pleine découverte, une pleine reconnaissance par tous et chacun de cette grandeur de la vocation de l'homme. Si vous voulez, l'an 2000 devrait donner à chaque homme la connaissance de la grandeur de sa vocation. Mais lui, on n'est pas beaucoup avancé avec ça, parce que quelle est cette vocation? Donc l'homme en l'an 2000, tout homme en l'an 2000, devrait enfin connaître quelle est la grandeur de sa propre vocation. Il faut donc expliquer qu'est-ce que c'est que cette vocation. En quoi consiste cette vocation? En quoi consiste la grandeur de cette vocation? Pourquoi est-elle grande? Voilà finalement ce que cherche à faire Jean-Paul II. Il va montrer en quoi consiste cette vocation, et effectivement qu'elle est bien grande. Pour comprendre, pour connaître quelle est cette vocation, et saisir ô combien elle est grande, il va s'appuyer sur le principe du concile que j'ai lu ensuite, qui est, par l'incarnation, le Fils de Dieu, lui-même, s'est en quelque sorte uni à tout homme. Il y a donc, par l'incarnation, une union du Fils de Dieu avec tout homme. Il faudra donc expliquer ce qui est manifesté là. C'est un peu difficile. Vous le savez, ou plutôt vous le croyez, vous avez appris votre catéchisme. Et vous savez que lorsque un enfant ou un homme est baptisé, il est par là même, par le fait même du sacrement de baptême, il est gratifié de la vie divine. Il reçoit la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est un don surajouté surnaturellement par Dieu à notre nature humaine, déjà créée par lui, puisque c'est Dieu qui crée l'âme. Donc Dieu, créateur de l'âme, donne en plus, au moment du baptême, de façon surnaturelle, sa vie divine. Donc la vie divine a pour auteur Dieu, et cette vie divine perfectionne la nature humaine qui a pour auteur aussi Dieu. Chez nous, la vie divine, ou en nous, la vie divine, là, c'est la théologie catholique, hein. En nous, la vie divine est quelque chose, je le dis, de surajouté à la nature. Il faut d'abord être un homme, être conçu, pour être gratifié de la vie surnaturelle. S'il n'y a pas d'homme, s'il n'y a pas d'âme humaine, il n'y a pas de vie surnaturelle. Il n'y a pas de grâce sanctifiante. Il n'y a pas de sujet pour le recevoir. De même que pour contenir du vin, il faut un contenant, une bouteille. Mais en nous, cette grâce sanctifiante, qui est la vie divine, et la vie divine, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas Dieu distinct de sa vie divine. Dieu est la propre vie divine. En nous, cette vie divine reçue ne fait pas de nous des dieux. Nous avons la vie divine. Nous ne sommes pas Dieu. Jésus-Christ, lui, toujours la théologie catholique, rassurez-vous. Jésus-Christ, vous le savez, est une personne divine. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Une seule personne divine qui avait, mystère de Jésus-Christ, deux natures, la nature humaine et la nature divine, conjointes. Nature divine assumant, dit-on, la nature humaine. C'est-à-dire que la nature divine, qui est Dieu, qui est la personne divine, assumait, prenait en charge cette nature humaine de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli des actes qui manifestaient qu'il était Dieu. Jésus-Christ a accompli des actes qui manifestaient qu'il était homme. Jésus a eu faim, Jésus a pleuré, Jésus a été fatigué, donc ceci sont des actes qui manifestent la nature humaine. Ou bien Jésus est crucifié. Et Jésus-Christ a manifesté qu'il était Dieu en accomplissant par exemple des miracles. La résurrection de Lazare manifeste sa divinité. Donc il y a deux natures en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, quand il dit « moi-je », c'est un « moi-je » divin qui parle. C'est « moi-je », deuxième personne de la Sainte Trinité. Jésus-Christ est une personne divine. Il a donc, lui, deux natures en une personne divine. Ça, nous savions de bien. Alors, l'ambiguïté, peut-être la supercherie, je ne sais. En tout cas, l'ambiguïté de cette phrase du Concile est la suivante. Là, je change de registre. Je passe, j'essaie d'expliquer, Vatican II. L'ambiguïté consiste en ceci. Que désormais l'incarnation, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni à tout homme. Cela veut dire que, par l'incarnation, du fait de l'incarnation, tout homme est désormais uni à la divinité. Alors, si on pousse un peu, fonction maintenant des textes que l'on a, puisqu'on est 30 ans après le Concile, des explicitations qui ont été données, on peut aller un peu plus loin. Ça veut dire l'incarnation, en fait, révèle, fait connaître. L'incarnation fait connaître à tout homme qu'il est uni à Dieu. Mais quelle est cette union? Elle n'est pas précisée. Est-ce que c'est l'union que l'on croyait, je dirais avant le Concile, union, on dit, accidentelle, ou est-ce que c'est l'union personnelle de Jésus-Christ? Ça, c'est ambigu. On ne sait pas. Enfin, ce n'est pas explicite. Mais il y a une ambiguïté. Et l'incarnation, désormais, est une révélation de l'union à Dieu de la nature humaine. Alors l'ambiguïté est un fondement philosophique qui n'est pas nouveau. C'est ce qu'on a appelé, au XIIIe siècle en particulier, la querelle des universaux. C'est, si vous voulez, l'erreur qui consiste à prendre l'idée pour le réel et le réel pour l'idée. Il y a une confusion entre les idées qu'on a dans la tête et le réel qui est en dehors de notre tête. Nous avons tous la nature humaine. Je le souhaite, sinon je parle pour les murs. Nous avons tous la nature humaine. Mais nous sommes chacun des individus différents. On a beau avoir tous la même nature humaine, nous sommes tous des individus différents. Cette nature humaine que nous avons tous en commun, Jésus-Christ l'avait aussi. Il avait, Jésus-Christ, saint Paul le dit bien, et tous les apôtres, n'est-ce pas, la même nature humaine que la nôtre. Jésus-Christ avait une nature en tout semblable à la nôtre, hormis le péché. Donc une nature humaine exactement identique à la nôtre. Si par l'incarnation, là je passe en Vatican II, si par l'incarnation, la nature humaine a été unie à Dieu, alors désormais, la nature humaine est unie à Dieu. Et donc quiconque a la nature humaine est unie à Dieu, puisque de soi, la nature humaine est unie à Dieu. Ça, c'est l'erreur de Vatican II. On est passé, si vous voulez, du réel, de la réalité, aux idées. C'est-à-dire qu'on pense nature humaine, on a l'idée nature humaine, et cette idée de nature humaine, si vous voulez, est maintenant, s'il n'était pas avant, nécessairement unie à la divinité. Donc quiconque a la nature humaine, eh bien, est nécessairement unie à la divinité. Mais voyez, la conséquence ultime, alors, c'est que, de soi, la nature humaine est unie à la divinité, donc tout homme, puisqu'il a la nature humaine, eh bien, tout homme est uni à la divinité. À quoi sert la religion ? À rien. À rien du tout. Puisque la nature humaine de soi est unie à la divinité. Donc que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, bouddhiste, hindouiste, shintoïste, anglican, protestant, orthodoxe, importe peu. Ou si vous êtes accessoire, on va voir. Puisque de toute façon, cette nature humaine est unie à la divinité. Pourquoi elle est unie à la divinité ? Parce que l'incarnation l'a manifestée. Il y a une autre supercherie. Donc l'incarnation a manifesté que la nature humaine est unie de soi à la divinité. Donc l'incarnation manifeste que tout homme est uni à Dieu. Et nous, on en reste là pour le texte. On ne va pas jusqu'à dire que tout homme est un Dieu ou est Dieu. Mais tout homme est uni à Dieu. Tout homme est divinisé. Voilà le principe. Alors vous voyez que là, les religions deviennent un peu accessoires. Fort de ce principe, qui est encore une fois de Vatican II, hein, c'est tout. Ça, c'est Vatican II. Gaudium et Spes, numéro 22. Fort de ce principe, eh bien, Jean-Paul II va dérouler sa lettre apostolique. Alors ce principe, et je vois encore une fois, il l'a dit 10 fois sur 12, ce qui est quand même important. En particulier, il va dire, et ça sert d'explicitation à ce que je viens de dire, vous voyez que si tout homme est uni à Dieu, eh bien, il y a une certaine unité entre tous, et quelle que soit leur religion, quelle que soit la façon dont ils pratiquent leur religion. Et Jean-Paul II va jusqu'à dire, page 10, pardon, numéro 6 du texte de l'enquête apostolique, ce qu'il avait déjà dit dans Redemptor Hominis, mais auquel on avait peut-être moins prêté attention. Le Verbe incarné est l'accomplissement de l'aspiration présente dans toutes les religions de l'humanité. Le Verbe incarné, alors le Verbe incarné, c'est Jésus-Christ. Le Verbe incarné est l'accomplissement de l'aspiration présente dans toutes les religions de l'humanité. Toutes les religions de l'humanité convergent vers le Verbe incarné qui est Jésus-Christ. Mais fort du principe qu'on vient de voir, ce n'est pas très difficile à admettre. Puisque justement, tout homme est uni à la divinité, eh bien il tend, si vous voulez, à épanouir de mieux en mieux cette divinité. Qu'est-ce que ça veut dire épanouir de mieux en mieux cette divinité? Ça veut dire tout homme tend à prendre conscience de plus en plus clairement de sa divinité, de son union à la divinité, et ainsi de ressembler toujours davantage au Christ qui a pleinement manifesté cette union à la divinité. Et tout homme devient ainsi semblable au Christ. N'est-ce pas ce à quoi nous encourage la religion catholique? Vous avez donc un langage apparemment le même, mais avec une réalité complètement différente. Effectivement, nous sommes, n'est-ce pas, l'Église nous incite à toujours reproduire, imiter Jésus-Christ. Et c'est vrai, c'est bien, car nous serons jugés effectivement sur cette ressemblance que nous aurons avec Jésus-Christ. C'est juste, fort justement de la grâce sanctifiante et des vertus qu'il nous donne. Mais c'est autre chose que de dire « tout homme est uni à la divinité » et il va finalement être un autre Christ dans la mesure où il aura, comme le Christ, pris conscience complètement, clairement, de cette union à la divinité. Autre chose, complètement autre chose. La religion étant accessoire. Voilà donc, si vous voulez, le point de départ, la lumière sous laquelle se déroule cette lettre. Voyez que l'an 2000 va finalement être une espèce de reconnaissance universelle, voudrait être une reconnaissance universelle, de cette divinité par tout homme. Alors ce serait le triomphe, là. Imaginons quelques instants, rêvons quelques secondes, que tous les hommes du monde reconnaissent en 2000 qu'ils sont unis à Dieu. Eh bien, nous serons dans une civilisation d'amour et de paix universelle. Alors, on n'y arrive pas tout d'un coup. Il faut être optimiste, mais surtout réaliste. On n'y arrive pas tout d'un coup à cette civilisation d'amour et de paix. Il faut s'y préparer. Et pour s'y préparer, voilà le programme. Donc, vous n'avez plus qu'à demander le programme à la sortie. Alors le programme, je suis obligé d'aller un peu, enfin non pas vite, mais de simplifier un peu. Le programme, si vous voulez, de cet acheminement est en deux temps, me semble-t-il. Pourquoi deux temps? Eh bien parce que c'est un programme spirituel. Et je dirais, de façon commune, tout anniversaire, tout événement spirituel a toujours deux temps. Il y a un temps d'examen de conscience et un temps de ferme propos. Toute notre vie est ainsi faite. Chaque journée est ainsi faite. Chaque soir, il y a examen de conscience. On regarde le passé, voir la journée, ce qui était bon, ce qui était mauvais, pour que le lendemain soit meilleur. Si on veut arriver à une perfection, il faut bien regarder ce qui a été défectueux pour le corriger. C'est-à-dire regarder ce qui a été défectueux à l'examen de conscience pour le corriger, ferme propos. C'est ce que fait, n'est-ce pas, n'importe quel commerçant. Il fait sa caisse et pour envisager le lendemain. Sinon, il n'y aura pas de lendemain. Alors c'est ce à quoi nous invite donc Jean-Paul II, préparation de ce jubilé. Vous voyez, on va jubiler en 2000, ça c'est sûr. Ça va être une jubilation universelle. Donc il faut s'y préparer. Alors deux temps, deux phases, examen de conscience d'une part, et puis ensuite ferme propos. Et Jean-Paul II va nous inviter d'abord à faire un examen de conscience, et puis ensuite va nous encourager au ferme propos. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va prendre comme résolution pour l'avenir. L'examen de conscience lui-même porte sur deux choses en particulier. D'abord, ce que l'Église a manifesté dans son passé, et ensuite, la façon dont on a reçu le Concile. Alors voyons d'abord, et ça on en a parlé surtout dans les journaux, c'est le point sur lequel ils avaient insisté, l'examen de conscience, c'est qu'est-ce que l'Église a fait dans le passé, qui puisse être bon, et dans ce cas-là, il faut poursuivre, ou mal, et il faut corriger. Eh bien, c'est ce que Jean-Paul II dit au numéro 33 en particulier. Il est juste que le deuxième millénaire du christianisme arrivant à son terme, l'Église prenne en charge le péché de ses enfants, dans le souvenir de toutes les circonstances dans lesquelles, au cours de son histoire, ils se sont éloignés de l'esprit du Christ et de son évangile, présentant au monde non point le témoignage d'une vie inspirée par les valeurs de la foi, mais le spectacle de façon de penser et d'agir qui était de véritables formes de contre-témoignage et de scandale. Donc l'Église a à se repentir des formes de contre-témoignage et de scandale qu'elle a données dans le passé. Vous savez que cette lettre avait été préparée par une réunion de cardinaux à Rome le mois de juin donc précédent, 94, et que, à cette occasion, Jean-Paul II avait précisé qu'il faudrait se repentir en particulier de certains épisodes de l'histoire, ce qu'on appelait l'Inquisition. Alors il y avait eu quelques débats, quelques remous, quelques cardinaux disaient qu'il ne faut quand même pas exagérer, ni aller trop loin. Donc le mot n'apparaît pas. Mais de fait, la chose y est. Ces formes de contre-témoignages et de scandales que l'Église a pu donner, c'est justement ces contraintes que l'Église a exercées sur certains de ces sujets. Contraintes tellement fortes, tellement violentes, finalement tellement scandaleuses, que ces pauvres sujets en sont sortis. C'est par exemple Jean Hus, bon, qui est un ancêtre de Luther. Bon, c'est Luther surtout. Vous voyez, c'est des gens qu'on a tellement poussés, on les a contraints qu'ils sont sortis. Tellement honnis, ils sont partis, forme de contre-témoignage. L'Église, qui devrait être au contraire le modèle de paix, d'amour et de charité, eh bien, a su faire sortir quelques sujets qu'elle estime, elle, être très mauvais. Alors que c'était peut-être des sujets qui manifestaient d'une autre façon cette prise de conscience de l'union à la divinité. Donc voilà une première chose à faire. Examen de conscience, se repentir de ces formes de contre-témoignages et de scandales. Et il insiste au numéro 34. Parmi les péchés qui requièrent un plus grand effort de pénitence et de conversion, il faut évidemment compter ceux qui ont porté atteinte à l'unité voulue par Dieu pour son peuple. Bon, on pourrait dire, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait bon. Il faut donc savoir, dit Jean-Paul II, se repentir de ces péchés qui ont porté atteinte à l'unité voulue par Dieu pour son peuple. Il y a là une ambiguïté malgré tout, car l'Église de soi, l'Église catholique, de soi est une. Et tant qu'elle est l'Église, elle est, elle sera une. Son unité n'est jamais atteinte en tant que telle. Parce que tant qu'elle est, elle est une, par soi, par essence même. Donc cette unité, en tant que telle, n'a pas pu être atteinte par quoi que ce soit. Sinon l'Église ne serait plus. Elle aurait elle-même été atteinte, elle ne serait plus. Il y a donc là une ambiguïté sur cette unité voulue par Dieu pour son peuple. Cette ambiguïté va être levée dans l'encyclique ensuite. Donc je la laisse un petit peu pour le moment, nous la reverrons tout à l'heure. Mais, Jean-Paul II insiste, repentons-nous de ce qui a porté atteinte à cette unité. Donc vous voyez, c'est plus vraiment l'unité de l'Église, c'est l'unité du peuple de Dieu. Parce qu'il n'est pas question de l'Église ici, il est question de l'unité voulue par Dieu pour son peuple. Bref, c'est quand même deux choses sur lesquelles il faut se repentir. Plus d'intolérance, plus d'inquisition, plus d'unité déchirée, au contraire, la plus grande possible. Voilà surtout ce sur quoi Jean-Paul II insiste. Le numéro 35 dit plus clairement, il y a un autre chapitre douloureux sur lequel les fils de l'Église ne peuvent pas ne pas revenir en esprit de repentir. Le consentement donné, surtout en certains siècles, à des méthodes d'intolérance et même de violence dans le service de la vérité. L'Église a été intolérante, elle a même été violente dans le service de la vérité, que désormais elle s'en repente. Donc qu'elle soit plus intolérante et qu'elle ne soit plus violente. Douce et bonne avec tous, pour la vérité, laquelle ? Il faut donc là, vous voyez, c'est clair, c'est plus clair, se repentir eh bien, de cette force, le mot violence est mal choisi, de cette force qu'a eu l'Église pour défendre la vérité, qui n'était rien d'autre que l'honneur de Jésus-Christ. Toutes les hérésies ont été combattues par l'Église précisément parce qu'ils atteignaient, ces erreurs atteignaient à l'Église et donc à Jésus-Christ, car Jésus-Christ et l'Église, c'est tout un, disait Bossuet. Voilà, si vous voulez, les deux premiers axes sur lesquels Jean-Paul II insiste pour cette préparation d'an 2000. Et oui, finalement, ils reviennent au même. Il s'agit de se repentir de tout ce qui a pu diviser. Il ne faut plus vouloir la division. Surtout, plus jamais ça. Alors, une fois qu'on a vu le point sur lequel, ou les points sur lesquels il faut se repentir, eh bien, il est bon de voir ce qu'on va faire de mieux ensuite. Alors, certes, on va se corriger. On sera désormais tolérant, on sera doux, bon, et même finalement mou. Mais surtout, il faut promouvoir ce qu'on avait abîmé. Qu'a-t-on abîmé ? L'unité. Si donc on se repent de cette unité qu'on a déchirée, il faut promouvoir l'unité. Après l'examen de conscience, le ferme propos. Ce qu'on a démoli, il faut le réparer. Réparons l'unité. Réparons-la. Alors Jean-Paul II va commencer cette réparation ou cette entreprise dans l'être apostolique et va expliciter dans l'encyclique. Là encore deux axes, si vous voulez, importants, qui reviennent l'un à l'autre. Le premier, qui va promouvoir cette unité, eh bien, c'est le martyrologe. Il faut désormais entreprendre la rédaction, la mise en œuvre d'un nouveau martyrologe. Je vous lis Jean-Paul numéro 37. L'Église du premier millénaire est née du sang des martyrs. Sanguis martyrum, semen christianorum. Ce fameux adage de Tertullien qui est cité là, tout à fait exact, n'est-ce pas ? Les chrétiens ont comme jailli du sang que les premiers ont donné, ont livré les martyrs. Les événements historiques liés à la figure de Constantin le Grand n'auraient jamais pu garantir à l'Église un développement comme celui qui se réalisa durant le premier millénaire s'il n'y avait eu les semailles de martyrs et le patrimoine de sainteté qui caractérisèrent les premières générations chrétiennes. Donc le sang, effectivement, versé au début de l'Église, eh bien, a été, si vous voulez, cette semaille, cette semence de chrétiens, génération ensuite. Et il insiste, Les persécutions à l'encontre des croyants, prêtres, religieux, laïcs, ont provoqué d'abondantes semailles de martyrs dans différentes parties du monde. Le témoignage rendu au Christ jusqu'au sang est devenu un patrimoine commun aux catholiques, aux orthodoxes, aux anglicans, aux protestants. Et Jean-Paul le dit, au terme du deuxième millénaire, l'Église est devenue à nouveau une Église de martyrs. Donc comme il y a eu les premiers martyrs qui ont versé leur sang et qui ont fait germer des chrétiens au premier millénaire, de même, à l'approche ou à la fin du deuxième millénaire, il y a un nouveau martyrologe ou de nouveaux martyrs qui se lèvent et qui vont de là faire germer d'autres saints. La grande différence notable, c'est que dans le premier cas, eh bien, ces martyrs qui ont versé le sang, ils l'ont toujours versé pour Jésus-Christ. Que ce soit en matière de foi ou de mœurs, de toute façon, ils le versent pour Jésus-Christ. Et en tant que tels, appartiennent à l'Église de Jésus-Christ, l'Église catholique. C'est la seule. Donc les martyrs font tous partie de l'Église catholique. Si par contre, on admet des martyrs orthodoxes, anglicans ou protestants, alors ce sont des gens qui ont versé leur sang, pour qui ? Pour qui un orthodoxe vert-il son sang ? Est-ce que c'est pour Jésus-Christ ? Pour qui un protestant vert-il son sang ? Est-ce que c'est pour Jésus-Christ ? Tous, il est vrai, sont chrétiens. Mais Jésus-Christ a fondé l'Église telle qu'elle est, l'Église catholique, sans changement, avec 7 sacrements en particulier, c'est un exemple. Donc celui qui verse son sang pour Jésus-Christ, il adhère, je dirais, à Jésus-Christ et à tout ce qu'il a fondé, tout ce qu'il a institué. Donc il adhère à Jésus-Christ et aux 7 sacrements qu'il a institués. Comment est-ce qu'un protestant, en tant que tel, en tant que protestant, pourrait verser son sang pour Jésus-Christ puisqu'il ne veut pas des sacrements que Jésus-Christ a institués, s'il est protestant, il les refuse. Donc il y a non seulement ambiguïté, mais erreur sinon faute. Un protestant, en tant que protestant, ne peut pas être martyr. Parce qu'il ne verse pas son sang pour Jésus-Christ tel qu'il est fondateur de l'Église ou celui qui a institué les 7 sacrements. Puisque s'il est protestant qui fait un acte de foi protestante, il verse son sang pour quelqu'un qui n'a pas institué 7 sacrements. Donc il y a une différence. Alors cette ambiguïté est malheureusement la plus criante dans l'explication que donne Jean-Paul II pour qu'on comprenne. En notre siècle, les martyrs sont revenus. Souvent inconnus, ils sont comme des soldats inconnus de la grande cause de Dieu. De la grande cause de Dieu. Alors cette expression pourrait être très très bonne. Elle pourrait nous faire comprendre qu'effectivement, on ne connaît pas toujours tous les martyrs. Bien des gens, peut-être, aujourd'hui, versent leur sang pour Jésus-Christ sans qu'on le sache. Et sont martyrs inconnus, comme il y a eu des soldats inconnus sur les champs de bataille qui sont morts chacun pour leur pays. Mais il y a malheureusement dans cette expression une confusion entre l'ordre naturel, enfin une confusion, une ambiguïté entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Et je vais pour ça raconter une petite scène qui fera bien comprendre la confusion. Je me souviens d'un événement, d'une cérémonie du 11 novembre dans un petit village de campagne normande. C'était il y a des années, quelques 30 ans par là, même plus même. Alors c'était le 11 novembre, ça se passe peut-être encore comme ça, je ne sais. Il y avait le 11 novembre une cérémonie en deux temps. Il y avait d'abord premier temps à l'église et deuxième temps monument aux morts. Le premier temps de cette grande cérémonie pour le 11 novembre, c'était sous la présidence du curé de la paroisse. Tout le corps, je dirais, de la mairie constituée était présent à l'église. Croyant, pas croyant, importe peu, le maire était là avec son écharpe. Ils étaient là dans l'église. Ils assistaient à la messe des morts que disait le curé. Et puis, à la fin de la messe des morts, on chantait les litanies des saints. On implorait, tous imploraient les saints, qui que ce soit. Au cours de la messe, le prêtre, comme il convient, le curé, avait fait un sermon, bon, peut-être à la gloire de la France, donc pour l'honneur de ces soldats morts, mais dont on ne connaît pas la destinée surnaturelle. Dieu seul connaît cette destinée. Donc il y avait, si vous voulez, messe, sermon du curé, litanie des saints. Et à ces litanies des saints, à l'époque, il n'y a pas de problème, c'était en latin, tout le monde répondait, au fur et à mesure qu'on évoquait les saints, « Ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis ». Une fois la messe terminée, tout le monde sortait de l'église, le maire, tout le conseil municipal, le curé, lui, ne sortait pas. Et tout le monde se retrouvait dans le cimetière qui était à l'époque autour de l'église, autour du monument aux morts. Et là, deuxième temps du 11 novembre. Une cérémonie, je dirais, calquée sur la première. Cette fois-ci, celui qui présidait l'assemblée, ce n'était pas le curé, c'était le maire avec son écharpe. Donc il avait son ornement liturgique, son écharpe. Et il faisait, comme le curé avait fait avant lui, eh bien son discours. Ce n'était pas un sermon, c'était un discours. Beaucoup plus rasoir que celui du curé, il fallait bien l'avouer. Mais enfin, on écoutait poliment le discours du maire. Et à la fin, il faisait comme le curé dans sa paroisse, dans son église. Au lieu de chanter ou de dire les litanies des saints auxquelles on répondait « Ora pro nobis », il lisait sur le monument le nom des morts et les enfants de la communale répondaient « Mort pour la France, mort pour la France, mort pour la France ». Vous aviez donc deux cérémonies parallèles. Le curé, son sermon et les litanies des saints. Et dans le cimetière, le maire avec son écharpe, son discours donc, et la litanie des morts pour la France. Mais un mort pour la France, c'est pas... Bien sûr, c'est plein d'honneur. Attention, on a honoré ces soldats morts pour le bien commun qui est la cité politique. Aucun doute. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont tous saints. Peut-être que, parmi eux, un est mort en état de péché mortel. Et donc, il est en enfer. On n'en sait rien. Dieu seul le sait. Mais on honore de façon naturelle ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. C'est bon, c'est bien. Mais ça ne dit rien du salut de ces morts. On ne sait pas. Alors, dire que les nouveaux martyrs sont comme des soldats inconnus de la grande cause de Dieu est un peu ambigu. Il y a peut-être une confusion de leur naturel sur naturel. Ce serait, ça pourrait être, dire que tous ceux qui meurent pour une grande cause, dans la mesure où ils sont morts pour une grande cause, sont dignes d'honneur, puisque la cause était grande, et en tant que tels, sont des saints ou des martyrs, parce qu'ils ne sont pas saints, ils sont martyrs en fait, donc honorables, mais de façon surnaturelle. Et on retrouve la confusion, j'ai essayé d'expliquer au début, entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Ouais, le mort pour une grande cause, c'est un martyr. Alors vous en avez des quantités aujourd'hui. Vous avez tous ceux qui meurent sous la violence des révolutions, sont tous des martyrs. Alors le nouveau martyrologe, un martyrologe de façon matérielle, c'est un recueil, c'est un livre dans lequel sont écrits tous les noms des saints qu'on fête chaque jour dans toute l'Église universelle. Eh bien, le nouveau martyrologe va contenir désormais, ils y travaillent, eh bien, tous ceux qui sont morts pour une grande cause. Et cette grande cause, c'est la cause de Dieu, parce que Dieu, c'est l'auteur de l'univers. Alors, tous ceux qui sont morts pour la grande cause de l'auteur de l'univers, ben, ils sont tous martyrs. Donc, le martyrologe, actuellement, nous lisons le matin l'Office, c'est un livre, si vous voulez, pas très important. Je dirais un gros missel. Là, ça va devenir une encyclopédie, parce que ce sera énorme. Je plains les prêtres, l'Office, avec des valises, obligés d'arriver pour lire chaque jour, au moins deux ou trois tomes, pour la grande cause de Dieu universelle. Enfin, c'est le premier axe sur lequel, vous voyez, il faut porter notre effort. Réaliser un martyrologe, c'est-à-dire un livre, un recueil, qui contiendra tous ceux qui sont morts pour la grande cause de Dieu. Alors, attention, mort quand même de façon spéciale. Hein. Le martyr, c'est celui qui verse son sang, qui va jusqu'au bout. Qui va jusqu'au bout, jusqu'à la mort violente, enfin, qui verse son sang, qui meurt dans une grande cause, et qui verse son sang pour cette cause. Deuxième axe de préparation, c'est l'écuménisme. Alors, cet axe sera développé explicitement dans l'encyclique. C'est un développement qui est nécessaire, donc c'est développer l'unité. Donc l'écuménisme, qui correspond un petit peu, si vous voulez, au développement du concile qui a voulu cet écuménisme, qui l'a commencé. Donc il faudra le mettre en place de façon attentive. Donc sur les textes que je vous ai lus tout à l'heure, on va les reprendre en encyclique. Nous savons tous que la réalisation de cet objectif, donc l'écuménisme, ne peut être le fruit des seuls efforts humains, tout indispensable qu'il soit. En définitive, l'unité est un don de l'Esprit Saint. Alors comme c'est un don de l'Esprit Saint, eh bien évidemment, il faut s'y atteler avec force et courage. Il faut vraiment réaliser cette unité. C'est-à-dire arriver à tout prix à mettre en place l'écuménisme. S'avancer davantage, donc, en conséquence, dans la prière écuménique. Voilà ce que donc souhaite Jean-Paul II. Alors ça, il en parle dans les passages que vous avez cités, et beaucoup plus. Bien sûr, dans l'encyclique. Donc l'encyclique va être comme un développement, voyez, de ce passage particulier de l'écuménisme, de la lettre apostolique. Un point que je cite pour mémoire, qui n'est pas négligeable, dans l'ordre de, l'examen de conscience et du ferme propos, donc préparation du jubilé en 2000, c'est la réception du concile. Jean-Paul II dit ceci au numéro 36, « L'examen de conscience ne saurait omettre la réception du concile, ce grand don de l'Esprit-Saint à l'Église au déclin du deuxième millénaire. Dans quelle mesure la parole de Dieu est-elle devenue plus pleinement l'âme de la théologie ?» Alors ça, c'est pour faire allusion à la constitution Dei Verbum. Donc Jean-Paul II va passer en revue les grandes constitutions et va poser la question, appliquons-nous, oui ou non, correctement ces constitutions? Si c'est oui, c'est parfait, continuons. Si c'est non, eh bien, mettons-nous-y et rapidement. Et en particulier, la liturgie est-elle vécue comme source et sommet de la vie ecclésiale? Est-ce qu'on applique correctement l'enseignement du concile Sacrosanctum Concilium? Si oui, c'est parfait, continuons. Sinon, il faudrait s'y mettre. Et vous avez là derrière donc une volonté affirmée, explicite, d'application du concile quant à la liturgie. Donc pas d'illusion. Pas d'illusion. Il faut s'y atteler. Donc la liturgie mise en place par le concile, dont la nouvelle messe est le fruit, eh bien, doit être appliquée. Ce n'est pas facultatif, puisque c'est nécessaire à la réalisation de ce jubilé. Et si on veut vraiment arriver à cette jubilation en l'an 2000, eh bien, il faut empêcher que ceux qui empêchent ne gênent. Puisqu'on veut que la liturgie se développe, il faut donc que ne se développent pas ceux qui ne veulent pas ces réformes liturgiques. C'est logique. Bon, ceci dit en passant, c'est le numéro donc 36. Revenons alors à cette unité qu'on a vue, elle est un peu ambiguë, et à cet écuménisme que veut développer Jean-Paul II. C'est l'encyclique. Alors, comme son nom l'indique, elle s'appelle « Qu'il soit un » ou « Tum sint ». Elle date de mai 1995. C'est la deuxième du genre depuis du XXe siècle. Il y en avait une écrite sur le même sujet, qui n'est pas citée dans cette encyclique-ci. Donc, c'est la pape Pie XI qui a écrit « Mortalium animo ». C'est une petite encyclique, très simple, très claire, très nette, contre l'écuménisme. Alors, Pie XI a écrit ça en 1928, il n'est pas fait une seule fois allusion dans ce document de 1995. Bon, enfin, ça peut être pas nécessairement rappeler tout ce que les papes ont dit avant. Jean-Paul II va nous montrer ce que c'est que cette unité à laquelle il entend mettre comme un point final en l'an 2000. C'est le numéro 6. L'unité de toute l'humanité déchirée et voulue par Dieu. Donc c'est simple, Dieu veut l'unité de toute l'humanité. Alors, cette unité, voilà ce qu'il en dit. Donc l'Église catholique considère dans l'espérance l'engagement écuménique comme un impératif de la conscience chrétienne. Donc c'est impératif. Donc là encore, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous allez gêner cette marche. Et donc vous allez gêner l'humanité dans sa marche vers l'unité. C'est un crime contre l'humanité, finalement. C'est le crime moderne contre l'humanité. Bien. Alors, Jean-Paul II insiste, Dieu veut l'Église parce qu'il veut l'unité et que dans l'unité s'exprime toute la profondeur de son agapé, c'est le mot qui est employé ici, grec, qui veut dire amour, si vous voulez, ou charité. Donc, la phrase importante ici, c'est Dieu veut l'Église parce qu'il veut l'unité. Alors là, on retrouve l'ambiguïté que j'avais lue tout à l'heure entre Église, peuple de Dieu et unité. Pour nous, catholiques, convaincus, l'Église est une. Et encore une fois, tant que l'Église est, elle est une. L'Église qui ne serait pas une ne serait plus. Ici, c'est un peu différent. Et vous avez en plus cette ambiguïté, c'est que Dieu veut l'Église parce qu'il veut l'unité. C'est-à-dire, en bonne logique, que l'unité est antérieure, elle est première, si vous voulez. On veut l'unité, et pour la mettre en place, on prend un moyen, c'est l'Église. C'est un raisonnement logique, si vous voulez. Si on veut l'unité, il faut un moyen pour cela, c'est l'Église. Je traduis, si vous voulez, en autre langage, ce qui est écrit ici. Dieu veut l'Église parce qu'il veut l'unité. Ça veut dire que l'Église est au service de l'unité. Alors, si Dieu veut l'unité de toute l'humanité, eh bien, l'Église est au service de l'unité de l'humanité. Voilà la phrase importante. L'Église est au service de l'unité de l'humanité, que Dieu veut. Et Jean-Paul II va nous expliquer pourquoi précisément Dieu veut l'Église pour réaliser cette unité. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc c'est ce qu'il va expliquer dans son encyclique. Pourquoi, si vous voulez, finalement, l'Église catholique est ce moyen adéquat ou approprié à cette réalisation de l'unité de l'humanité. Il va, j'allais dire comme on pouvait s'en douter, s'appuyer sur le Concile Vatican II, revenir à cette fameuse phrase de Lumen Gentium, une autre constitution de l'Église, ambiguë, qui disait, et qui dit, elle est citée ici, l'Église du Christ est plus vaste que l'Église catholique. Mais l'Église catholique est un des dépositaires de l'Église du Christ. L'Église du Christ est plus vaste que l'Église catholique. Mais l'Église catholique, si vous voulez, est un des réceptacles dans lequel on trouve cette Église du Christ. Il y a une différence désormais entre l'Église du Christ et l'Église catholique. Alors, Dieu veut l'Église parce qu'il veut l'unité. Dieu veut l'Église catholique parce qu'il veut réaliser, eh bien, l'Église du Christ. Cette Église du Christ, c'est l'humanité. C'est le peuple de Dieu. Mais ce peuple de Dieu ne sera l'Église du Christ que s'il a réalisé cette unité, justement. Et voilà toute l'importance de cette unité. Pour que ce peuple, cette unité, cette Église, pardon, cette humanité soit Église du Christ, il faut qu'elle soit un, qu'il réalise cette unité. D'où l'importance de mettre en place tout ce qu'il convient pour réaliser l'unité. Alors il insiste, n'est-ce pas, sur Vatican II, Lumen Gentium. Les éléments de sanctification et de vérité présents dans les autres communautés chrétiennes, à des degrés différents dans les unes et les autres, constituent la base objective de la communion qui existe, même imparfaitement, entre elles et l'Église catholique. Il y a, dans les Églises, des éléments communs qui permettent de fonder cette unité que sera l'Église du Christ. On retrouve, si vous voulez, des éléments communs. Évidemment, s'il y a des éléments communs, mais si on ne s'appuie que sur ceci, alors on a enlevé tout ce qui différencie les Églises. Et l'Église catholique perd ainsi toute distinction spécifique des autres. On ne prend plus que ce qui est commun. Alors, dans le cadre ici de cette encyclique qui ne voit un œcuménisme que chrétien, ben on prendra éventuellement tout ce qui est commun, c'est croire au Christ. Mais vous voyez que cette croyance, elle est en fait défectueuse. Malheureusement, même si c'est vrai que l'encyclique ne traite que de l'œcuménisme chrétien, Jean-Paul II dit pourtant dans la lettre apostolique, donc il va plus loin, il dit le bouddhisme et l'hindouisme se présentent comme ayant un caractère clairement soteriologique. Alors soteriologique, ça veut dire sauveur, le salut pour nous c'est le ciel. Donc il dit le bouddhisme et l'hindouisme sont des systèmes religieux, pardon j'avais oublié, car des systèmes religieux comme le bouddhisme et l'hindouisme se présentent comme sauveurs. Donc si pour le moment l'œcuménisme n'est vu que chez les chrétiens, puisque les bouddhismes et hindouismes sont des systèmes qui sauvent, il y aura là aussi des éléments communs qui permettront d'établir cette unité. Puisqu'on trouve partout des éléments de salut, qui permettent donc de réaliser cette unité. Voilà donc le point de départ de l'encyclique, cette réalisation d'unité. Alors Jean-Paul II se félicite qu'on ait déjà avancé, on n'est pas au point zéro, on a déjà bien gagné, on a avancé dans cette réalisation. Il donne quelques exemples de points positifs. À l'expression « frères séparés », l'usage tend à substituer aujourd'hui des termes plus aptes à évoquer la profondeur de la communion. Donc il vous dit, le langage employé manifeste que justement on a déjà commencé une certaine unité, une certaine communion. Et il dit, on ne parle plus de frères séparés, on dit autres chrétiens, autres baptisés, ou bien chrétiens des autres communautés. Donc on ne dira plus aux protestants mon frère séparé, on dira mon autre frère. Là, vous voyez, on joue sur les mots. On joue sur les mots, il ne faut pas exagérer. Si, il faut exagérer. Jean-Paul II dit, ce développement du vocabulaire, c'est lui, ce développement du vocabulaire traduit l'évolution notable des mentalités. Et c'est là qu'on voit l'importance du langage humain pour modifier les idées. C'est clair, c'est écrit là. On ne parle plus des séparés, on parle des autres. Et bien évidemment, on va perdre l'idée, on n'y croira plus, on n'adhérera plus, qu'ils sont séparés, ils ne sont pas séparés. Ils sont autres. Ils ont donc d'autres caractéristiques que les nôtres, mais ils ont aussi avec nous des points communs qui permettent de réaliser cette unité. Donc c'est un premier point, si bien on peut se féliciter, effectivement, de réalisation de cette unité. Et il insiste, « La fraternité universelle des chrétiens est devenue une ferme conviction œcuménique. » Reléguant dans l'oubli les excommunications du passé, donc c'est en particulier les orthodoxes, c'est tout ce qui s'est entrepris par Rome, les communautés un temps rivales s'aident aujourd'hui mutuellement dans de nombreuses circonstances. Donc les protestants, si vous voulez éventuellement, orthodoxes, chrétiens, catholiques, s'aident. Alors en quoi? Comment? Parfois on se prête des édifices du culte. Donc vous voyez, après tout, un pasteur prêtera son temple, un catholique son église, etc. C'est beau de voir cette unité. Ça va plus loin. On offre des bourses d'études pour la formation des ministres des communautés qui manquent le plus de moyens. Alors, n'importe lesquels. Donc, on fait la quête pour la bonne formation des pasteurs. Donc, à l'église, par un côté, on fera la quête pour la formation des pasteurs en Norvège ou je ne sais où. Parce que, c'est en Norvège ou bien en Afrique, on manque de moyens pour former des pasteurs. Ou bien des popes. Ou même, malheureusement, puisqu'on peut aller plus loin, des bouddhistes. Puisque malheureusement, ces systèmes-là aussi sont sauveurs en des points communs. Bon. Vous voyez l'ambiguïté de cette communauté. Bon, au passage, n'est-ce pas, nous n'en faisons pas partie. On voudrait bien qu'ils nous prêtent quelquefois des édifices du culte. Bon. Alors c'est là qu'on voit, n'est-ce pas, quand on discute, ça nous arrive avec des prêtres, si vous voulez, qu'on appelle conciliaires, ils n'ont pas lu les documents. On pourrait arriver, écoutez, c'est marqué là dans l'encyclique, vous pouvez nous prêter des édifices du culte, même nous donner des bourses d'études, on a peu de moyens pour la formation de ministre. Là, ils n'ont pas l'air d'accord. Donc on leur dit, mais alors vous critiquez l'encyclique, et vous dites que nous, on est désobéissants, mais c'est vous qui êtes désobéissants. Bon. Donc il y a un illogisme, il est assez facile à saisir. Deuxième point positif de mise en place de l'unité, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Donc, c'est là, n'est-ce pas, petit à petit, on finit par enlever tout ce qui est différent, enlever les différences. Vous savez que la Bible des protestants n'est pas celle des catholiques. Certains passages sont omis, il y a des passages qui manquent par rapport à la Vulgate dans la Bible protestante en particulier. Bon, désormais, si on a une Bible œcuménique, les catholiques n'auront plus non plus les passages qui manquent chez les protestants. Donc, il n'y aura plus l'intégrité du dépôt de la révélation écrit. Une perte de l'intégrité. Alors quelque chose qui n'est plus intégral, n'est plus. N'est plus. C'est très important, ça. La Bible, la Vulgate, en laquelle, positivement, on enlève quelque chose, n'est plus la Vulgate. Parce qu'on a perdu. C'est comme une maison, si vous voulez, à laquelle on enlève une pièce principale. Ce ne sera plus une maison, ce sera une ruine. Bon, c'est un peu ça pour la Bible. Enfin, pour eux, c'est un point qui nous fait avancer vers l'unité, c'est sûr. On enlève de plus en plus de différences. Vous avez un autre facteur important qui, là, avait déjà été développé par le code de 1983, qui est rappelé ici au numéro 46, donc toujours des marches vers l'unité. Dans cet esprit, c'est un motif de joie que les ministres catholiques puissent, en des cas particuliers déterminés, administrer les sacrements de l'Eucharistie, de la pénitence, de l'onction des malades à d'autres chrétiens qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique. Donc des gens qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique, eh bien pourront recevoir malgré tout le sacrement de l'Eucharistie, ou de la pénitence, ou l'onction des malades. Ça s'appelle la communion sacris, ça l'Église avait toujours formellement interdit. Bien sûr. Parce que pour recevoir les sacrements, il faut professer la foi catholique. En plus, pour recevoir les sacrements, il faut y croire. Enfin, pour que ce soit bénéfique, que ça fructifie, il faut y croire. On voit mal comment un protestant pourrait recevoir la pénitence. Bon. Et puis, on se félicite aussi du renouveau liturgique. Dans diverses communautés ecclésiales, au renouveau liturgique accompli dans l'Église catholique, a correspondu l'initiative de renouveler leur culte. Donc, il y a un renouveau liturgique universel. Chacun des cultes même se renouvelle. Chacun des cultes, vous voyez, se renouvelle. Et cette rénovation de chacun des cultes, au moins ici de chrétiens, a été suscitée par le renouveau de l'Église catholique. Ça a suscité un renouvellement de tous. Alors malheureusement, on voit bien ce que ce renouvellement va faire, c'est-à-dire, ce n'est pas un renouvellement, c'est un nivellement qui permettra effectivement une Eucharistie commune. Car c'est le but. Jean-Paul II va le dire un peu plus loin. On n'est pas encore arrivé, mais bientôt viendra le temps où nous pourrons ensemble se réunir pour une Eucharistie. Bon, il suffit d'un peu de temps, justement d'arriver à enlever tout ce qui est encore différence. Donc ce n'est pas parfait. Voilà quelques points donc positifs dans la marche vers l'unité. Tout n'est pas encore fait. Il y en a encore d'autres à faire. Alors Jean-Paul II apporte là quelques précisions. Le martyrologe n'est pas encore complètement réalisé. Il faut donc dépasser les obstacles à l'unité. Dépasser les obstacles à l'unité pour arriver à mettre en place ce martyrologe commun qui contiendra tous ceux qui auront pu donc aller jusqu'à l'effusion du sang. Alors c'est là qu'il y a l'ambiguïté. Si le martyr est désormais celui qui meurt pour une grande cause jusqu'au sang, n'importe qui peut donc être martyr. Et précisons, le martyr finalement sera celui qui, par amour, pour ceux qui l'entourent, ceux qui sont partis dans cette grande cause, celui qui meurt par amour jusqu'au sang, celui-là est digne d'honneur. Alors ils sont plus ou moins honorables en fonction, je dirais, du nombre de ceux pour lesquels ils meurent. Un martyr qui verse son sang pour une grande cause, si vous voulez, c'est pour entraîner ceux qui étaient avec lui à toujours continuer à défendre cette cause qui pour eux était le bonheur. Plus le cercle qui l'entoure est grand, plus il est digne d'honneur, plus son amour finalement était grand. Et alors à cet égard, le plus grand de tous, c'est Jésus-Christ. Il a versé son sang pour la grande cause de Dieu, et justement pour manifester à tous ceux qui le suivent, à tous ceux qui pourraient le suivre, eh bien cet amour jusqu'au bout. Et Jésus-Christ meurt pour toute l'humanité. Il meurt pour la grande cause de Dieu, il verse son sang et pour toute l'humanité. C'est le plus grand de tous. C'est le plus grand des martyrs, parce que cet amour n'est pas restreint à une communauté, mais il s'étend à toute l'humanité. C'est vraiment la grande cause de Dieu. Jésus-Christ est vraiment le martyr par excellence. Alors il faut entraîner, pousser les autres à en faire autant, à imiter autant que faire se peut. Donc on n'est pas encore arrivé là, dit Jean-Paul II, mais on y avance. Enfin, dernier point, pour n'être pas trop long, qui est encore une différence, mais qui devrait pouvoir s'estomper. Alors ça, c'est un peu plus grave. On en a beaucoup moins parlé. C'est à partir du numéro 88, quasiment jusqu'à la fin. Il y a un petit problème qui sépare quelques chrétiens entre eux. C'est la primauté du pontife romain. Vous savez, par exemple, que ce qui sépare les orthodoxes et les catholiques, c'est le fait que le pape, pour les catholiques, est le chef suprême de l'Église, c'est-à-dire qu'il a autorité sur chacun des sujets de l'Église. Donc il a une autorité de gouvernement, si vous voulez, de juridiction, de gouvernement sur tous et chacun. Un pouvoir réel. Alors que les orthodoxes n'admettent pas cela. Eux, si vous voulez, l'Église orthodoxe est une Église qui regroupe des patriarcats, mais sans qu'aucun n'ait autorité sur les autres. Il reconnaîtrait éventuellement une primauté d'honneur. Ça avait été la grande division entre les catholiques et les anglicans. Les anglicans ne reconnaissaient qu'une primauté d'honneur au pape, mais ne voulaient pas entendre parler de primauté de gouvernement, de pouvoir du pape. Et justement, Pie XI, qui avait écrit l'encyclique Mortalium Animos en 1928, avait écrit cette encyclique pour mettre fin à des colloques qui s'enlisaient entre catholiques et anglicans. Parce qu'il disait, non, il n'y a pas moyen de s'entendre s'il refuse cette primauté de gouvernement du pape. Alors, c'est donc un point, vous voyez, qui empêche l'unité, cette primauté. Alors, Jean-Paul II écrit ceci. Il est cependant significatif et encourageant que la question de la primauté de l'évêque de Rome soit actuellement devenue un objet d'étude. Donc là, c'est encourageant de voir qu'on discute maintenant de la primauté de l'évêque de Rome. On discute. Au passage, il ne se dit jamais, ou sauf une fois, le pape. Il parle de l'évêque de Rome. Parce que l'évêque de Rome, sinon, c'est un évêque parmi d'autres. Et il dit, ce service de l'unité, et on arrive là-haut, au cœur, parce qu'on comprend pourquoi l'Église catholique va réaliser l'unité. Donc l'Église de Dieu est appelée par le Christ à manifester, pour un monde enfermé dans l'enchevêtrement de ses culpabilités et de ses desseins déshonnêtes, que malgré tout, Dieu peut convertir les cœurs à l'unité. Donc l'Église de Dieu, voyez, est appelée à manifester cette unité. Ce service de l'unité, enraciné dans l'œuvre de la miséricorde divine, est confié à l'intérieur même du collège des évêques, à l'un de ceux qui ont reçu de l'Esprit la charge, non pas d'exercer un pouvoir sur le peuple, mais de conduire le peuple, pour qu'il puisse avancer vers de paisibles pâturages. Fameux cantique, n'est-ce pas, qui nous vient aux oreilles. Dans tes verts pâturages. Vous avez donc là, malheureusement, un point important, c'est que Jean-Paul II dit qu'il se réjouit que la primauté de l'évêque de Rome soit mise en discussion, et que cet évêque de Rome a pour fonction de réaliser ce service de l'unité. Il est, si vous voulez, le choisi, non pas parce qu'il gouverne, mais parce qu'il connaît mieux l'unité, il est le choisi pour réaliser cette unité. Et donc sa fonction va consister à la mettre en place. C'est, si vous voulez, un petit peu l'honneur qui revient à l'évêque de Rome. Pourquoi ? Eh bien là, c'est vrai, si vous voulez, un choix que le Christ a fait. Il aurait pu le faire sur un autre, mais Jésus-Christ a choisi l'évêque de Rome. C'est donc l'évêque de Rome à qui est confiée cette fonction de réaliser l'unité. C'est à lui que revient de mettre en place cette unité. Il est au service de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire conduire les autres vers cette unité, mais non pas gouverner. Ce qui, effectivement, l'a fait tomber, la primauté pontificale. Ce qui est important, c'est de saisir cette fonction qu'il a. Vous voyez donc, il a à mettre en place l'unité. Or, l'unité, on l'a vu, c'est l'unité de toute l'humanité. L'évêque de Rome a donc à faire connaître à toute l'humanité que Dieu veut l'unité de l'humanité. Et comment va-t-on, j'en reviens au principe, au point de départ, comment va-t-on réaliser l'unité de toute l'humanité ? Dans le fait que tout homme se reconnaisse divinisé. Donc l'évêque de Rome a pour fonction de faire reconnaître à tout homme qu'il est divinisé, sinon Dieu. Lorsque tout le monde aura reconnu, ou chacun aura pris conscience, aura reconnu qu'il est divinisé, sinon Dieu, alors on aura atteint à cette espèce de civilisation d'amour et de paix universelle. Jean-Paul II, puisque c'est à lui qui revient à ses fonctions, a donc cette mission spéciale de faire prendre conscience à tout homme qu'il est divinisé, où qu'il soit, dans quelque pays qu'il soit. Que fait-il ? Eh bien, il le dit lui-même. Vous avez ça au numéro 24 de lettre apostolique, repris dans l'encyclique. Les pèlerinages du pape, ses voyages, sont devenus un élément important dans l'effort d'application du Concile Vatican II. Gaudium et Spes numéro 22. Pourquoi le pape voyage-t-il ? Pour faire connaître partout, à tout homme, qu'il est divinisé. Et je vous ai expliqué au début que la religion importait peu. Quelle que soit sa religion, il faut lui faire connaître qu'il est divinisé. Il faut lui faire prendre conscience qu'il est divinisé. Donc les voyages sont nécessaires, sont importants. Il faut voyager. Et il le répète dans l'encyclique, au numéro 24. Je voudrais rappeler l'expérience particulière que représente le pèlerinage du pape parmi les églises. Donc il se déplace partout pour faire connaître, justement, cette union de l'homme à la divinité. Alors là, on atteint, si vous voulez, au terme, me semble-t-il, au moins de ces deux documents, mais en fait, c'est une conséquence du Concile Vatican II. On arrive au terme, c'est-à-dire que l'an 2000 vous doit être la réalisation de l'unité de l'humanité. Cette unité ne peut se réaliser que s'il y a une certaine égalité, des points communs. Ce point commun fondamental, en lequel tous les hommes peuvent se retrouver, c'est le fait qu'ils sont tous divinisés. Et cette divinisation de l'homme, il revient à l'évêque de Rome de la faire connaître. Pourquoi ? Parce que lui connaît mieux que les autres l'incarnation. L'incarnation qu'est-elle ? Est-ce que c'est le mystère du Fils de Dieu fait homme? Non. L'incarnation, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience que l'homme est divinisé. L'incarnation, c'est le révélateur de cette divinisation. Pourquoi? Eh bien, si vous voulez, parce que être divinisé, c'est être parfait. Et quel est celui qui est parfait? C'est celui qui, justement, va jusqu'à l'effusion du sang pour ceux qu'il aime. Et dans la mesure où il va jusqu'à l'effusion du sang pour ceux qu'il aime et qu'il aime toute l'humanité, alors il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus parfait. C'est ça la divinisation. C'est le fait de donner tout son sang pour tous les hommes. Et Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Il a dit « Je meurs pour tous les hommes ». Il est donc, si vous voulez, l'homme parfait. L'homme parfait. Et ça, c'est les mots de Vatican II. Jésus-Christ est l'homme parfait. Jésus-Christ est celui qui révèle cette divinisation de l'homme. C'est-à-dire, Jésus-Christ révèle, si vous voulez, la grandeur de la vocation de l'homme. C'est-à-dire, Jésus-Christ montre jusqu'où peut aller l'homme. Il peut aller jusqu'à aimer tous les hommes, sans aucune ségrégation. Amour universel. Si tous les hommes étaient capables d'aller jusque-là, l'unité de l'humanité serait réalisée. Tous seraient prêts à livrer leur sang pour tous les autres. Et Jésus-Christ l'a fait comment? Eh bien, comme les martyrs, il a été martyrisé jusqu'au sang pour la grande cause de Dieu. Martyrisé par qui? Eh bien, par ceux qui ont martyrisé tant de martyrs inconnus. Qui? Le pouvoir politique. Qui martyrise les martyrs? Les pouvoirs politiques, les pouvoirs révolutionnaires, les pouvoirs politiques, toujours les pouvoirs politiques. Quel était le pouvoir politique à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ? Le pouvoir romain. C'est Rome qui a mis mort Jésus-Christ et qui a fait de lui le plus grand des martyrs, l'homme parfait. Déicide, perfidie, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas d'importance. C'est autre chose. Vous voyez, Jésus-Christ est l'homme parfait qui verse son sang pour tous les hommes, mais il le verse mis à mort par un pouvoir politique. Opprimé par un pouvoir politique. Il est celui qui a manifesté le mieux cette divinisation de l'homme. Il est l'homme parfait. Alors ainsi, eh bien, on aura, si tout le monde en fait autant, et si tout le monde a compris cela, on aura réussi en l'an 2000 l'unité de l'humanité. Tout le monde sera capable de faire comme lui, d'être prêt, disons, à aimer tous les autres. C'est l'amour universel, la paix universelle. L'an 2000 sera donc, eh bien, la paix une fois pour toutes. Enfin, on ne sait pas ce que sera 2001, si c'est prévu, c'est pas encore. L'important, pour conclure, c'est que lorsque donc cette paix universelle, cet amour universel seront établis, eh bien tous les hommes se retrouveront égaux dans cette reconnaissance de leur propre divinisation. Ils seront tous égaux. Il n'y aura plus de chef, il n'y aura plus de pouvoir qui puisse opprimer d'autres parties, plus d'inégalité. Une égalité universelle. Nous serons donc, si vous voulez, en l'an 2000, dans un monde où tous sont égaux. Hein. Donc nous aurons une vie politique dans laquelle chacun est égal à l'autre. Alors ce schéma politique, c'est une démocratie. Nous serons donc arrivés à cette démocratie universelle. Démocratie universelle qui sera animée de façon religieuse par celui qui en a la charge, l'évêque de Rome. C'est ce que d'aucuns, à une époque, appelaient le MASU, mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. C'était en parlant du sillon, n'est-ce pas, Saint-Pédis, donc au début du siècle. Espèce de volonté qu'avait eu Marc Sangnier d'établir cette espèce de démocratie universelle fondée sur l'amour universel sans plus aucune séparation ni distinction et qui aurait été comme animée de façon intrinsèque, intérieure, et bien par une certaine religiosité, une certaine religion dont serait responsable finalement et bien un parmi d'autres, pourquoi pas l'évêque de Rome. On arrivera donc à cette démocratie universelle dans laquelle tous les hommes sont Dieu et animés en permanence eh bien, par l'évêque de Rome, qui réalisera ainsi le peuple de Dieu, un. Alors, si vous voulez, bon, je ne l'ai pas, il y a beaucoup de micros ici. Ce que je voulais montrer, c'est ça, c'est le problème de Jésus-Christ, donc, qui meurt martyr, condamné par un tribunal politique. Si vous voulez, donc c'est pour ça que je disais, Jésus-Christ est mort, non pas, si vous voulez, condamné par, comme dit Saint-Augustin, par les Juifs qui, en criant « crucifiez-le, crucifiez-le », ont développé autant de glaives qu'il le fallait. Non, il meurt victimes d'un pouvoir politique. Donc les Juifs sont là désormais, si vous voulez, lavés de tout péché. Tout péché. Il n'y a plus de déicide. Ah non, 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 non. Ah, c'est moi qui dis ça. Enfin, le 13 avril dernier, Jean-Paul Huth est allé à la synagogue à Rome. Et il a dit, si vous voulez, donc je n'ai pas le texte exact, je n'ai qu'un compte rendu, qu'il y avait deux points sur lesquels il fallait désormais se pencher, donc le problème de la Shoah qu'il fallait absolument faire comprendre à tous, et le problème de l'antisémitisme. Et il a dit, l'Église catholique est responsable, c'est elle qui a causé l'antisémitisme. 13 avril dernier. Et ça, si vous voulez, malheureusement, enfin, il y a les antérieurs, les antécédents, ça serait une autre conférence. C'est toute l'histoire du Concile. C'est la rencontre d'Isaac, qui a écrit ce livre Israël, non, le titre Isaac m'échappe à l'instant. C'est un livre donc écrit par Isaac. Alors, Isaac, c'est pas Malais, c'est l'autre. Hein. Donc Malais Isaac, c'est le livre d'histoire, tout le monde les connaît. Donc l'Isaac, c'est l'autre. C'est pas Malais puisque c'est l'autre. Alors il a écrit Isaac ce livre donc sur Israël. C'est un livre assez épais, qui tente à montrer que ni perfidie ni déicide ne sont dans l'Écriture, et que c'est l'Église qui a inventé ces deux termes. Et il a montré ce livre à Jean 23, et Jean 23 dit dans son discours d'inauguration, enfin de discours qui va lancer le Concile, revenons à l'Écriture. Revenons à l'Écriture. C'est-à-dire, restons, c'est ce que disait Isaac, restons au terme de l'Écriture. Isaac démonte, il prend les propositions après propositions et il dit, regardez, voilà la passage d'Écriture, et regardez comment ça a été commenté par tous les livres qui sont ici, donc Filion et les autres. C'est eux qui ont dit ici, c'est eux qui ont dit perfidie. Ce n'est pas dans l'Écriture. Le peuple juif, c'est marqué nulle part, n'a été perfide ou déicide. Voilà peut-être un des problèmes actuels. Question grave, hein, parce que c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Ça, il y a quand même des phrases amusantes, parce que quand on lit... Enfin, amusante, c'est plutôt triste, mais... Quand on lit « Relégons dans le passé les excommunications », on dit « On pourrait reléguer dans le passé celle de 1988, hein, c'est pas si vieux. » Mais là, non, c'est celle d'avant, l'avant. Dans ces cas-là, ils ont la mémoire longue et non pas courte. Bon, on peut s'arrêter là, peut-être.